la particularité, c'est que le livre n'est situé ni en termes de temps, ni en termes d'espace, en fait. Cette question-là, elle demeure ouverte. On ne sait pas quand est-ce que ça se passe, on ne sait pas vraiment où est-ce que ça se passe. Et c'est plutôt le travail du lecteur que d'imaginer où cette histoire, selon lui, se passe.
Moi, honnêtement, j'étais embarqué dans votre livre et j'ai vraiment cru que c'était justement votre histoire que vous racontiez. Okay. Vraiment cru. C'est vrai qu'avec le nom, on sait tous, c'est vrai que quand on en a discuté entre nous, on s'est tous posé la question, il était vraisemblable que ce soit vraiment votre propre histoire. Et par rapport aux réponses que vous venez nous dire, effectivement, le fait de s'imaginer justement le lieu, l'espace, on a directement une réponse par rapport à ce qu'on se posait déjà au départ.
Une écrivaine qui évoque son travail, des lecteurs qui parlent de leurs ressentis et qui posent des questions, c'est une rencontre littéraire comme les autres à laquelle nous assistons, à ceci près que cette rencontre a lieu en prison.
De votre roman, qu'est-ce qui vous a amené à connaître votre histoire en quelque sorte dans le livre ?
On est à la maison d'arrêt d'Arras, vendredi 10 mars après-midi. Une rencontre a été organisée par l'association parisienne Lire pour en sortir, en lien avec l'unité locale d'enseignement. Rencontre entre un groupe de détenus et l'auteur du livre à l'origine, Notre Père Obscur, Kaoutar Archi. On a pu assister à cette rencontre et puis interviewer les différents participants. On commence par écouter le groupe de personnes détenues. Ils nous expliquent comment ils ont été amenés à participer à ce projet.
Donc en fait, c'est Michel qui nous a proposé cette activité.
Alors Michel, c'est
Il est parti, c'est le monsieur Chauffe que vous avez vu parler, les enseignants. Et on a rencontré Muriel et Cécile. Donc à partir de ce moment-là, on a eu une liste de livres à choisir, qu'on a tous lus. On a commencé à se réunir. Là, un groupe s'est créé, c'est le groupe que vous voyez ici. Et au fil du temps, chacun a appris à se connaître, chacun a parlé de son ressenti sur chaque roman qu'on avait lu. Et voilà, un groupe s'est créé. Et ce groupe-là, il est en place depuis maintenant un petit moment déjà. Et je pense que c'est vraiment pas mal. Ouais. C'est enrichissant, c'est convivial. On apprend beaucoup sur nous à faire confiance aux autres, à parler de nous-mêmes, c'est chaleureux, alors qu'on est en détention, je veux dire, c'est un endroit assez dur, et grâce à cet atelier, on arrive quand même s'évader, s'évader, et grâce à la lecture, de retrouver un petit peu de bonheur.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, justement, du roman de Kaoutar, là ? Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce roman ?
Pour ma part, j'ai trouvé que c'est un très beau roman. Donc, on est bercé dedans dans le sens où le fait de ne pas avoir justement certains mots-clés, on arrive à s'imaginer, on arrive à se projeter justement dans un espace que d'autres pourront le percevoir autrement. Et le fait justement de lire et de poursuivre justement le chemin, parce que je ne vais pas trop en dire sur le roman, parce que je laisserai justement à d'autres acheter ce livre et à le lire. Mais le fait de ne pas pouvoir apprendre davantage sur les différentes personnes, ça nous met justement... on se met justement à la place du personnage principal. Et le fait d'être dans les pensées de ce personnage principal, on arrive à ressentir ses émotions, on arrive à s'imaginer justement dans la structure. Et puis sur la fin, moi personnellement, je reste sur ma fin. J'aurais souhaité justement connaître une suite, par exemple. C'est vrai qu'il manque quelque chose, on le reste sur notre fin, on a envie d'en apprendre plus. Voilà, c'est pas pour, je voudrais pas décrire directement de quoi ça raconte, mais c'est une très belle histoire. Surtout en rapport avec les femmes, et puis sur les hommes justement. Sur les hommes, sur le mensonge en particulier, sur ce que les femmes attendent justement de l'homme, entre l'abandon et puis l'espoir, c'est ça qui est intéressant.
C'est un livre qui vous a plu ?
Celui-là, oui. Et je ne l'ai pas encore fini encore, parce que j'ai fait beaucoup de choses entre deux, alors je le lis quand j'ai 5 minutes, 10 minutes, sur le soir, assis sur mon lit.
Alors là, on sort à peine de la rencontre avec Kaoutar Archi. Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Qu'est-ce qui vous a peut-être aussi surpris dans cette rencontre ?
C'est une rencontre qui est agréable et bénéfique pour nous, Parce que déjà, le fait de rencontrer un auteur, c'est pas rien, surtout en détention. Le fait de nous, déjà, d'avoir lu un petit peu, entre guillemets, pour d'autres, l'avoir fini le livre, ça nous a permis de poser des questions auxquelles on a eu les bonnes réponses. Et c'est toujours gratifiant pour nous, personnes en détention, de recevoir de la visite extérieure, quoi. Surtout pour une activité et un atelier dont on participe tous, quoi. C'est vraiment pas mal.
Bien, c'est pour moi une rencontre extrêmement intéressante. On n'a pas souvent l'occasion de rencontrer des auteurs. J'ai lu le roman avec un peu d'appréhension au début, à cause du nom de l'auteur, justement. Et au fur et à mesure, dans la lecture, j'ai commencé à bien aimer ce roman. Et de pouvoir rencontrer l'auteur, pour moi, c'est quelque chose de formidable. Et tout s'est bien passé.
Et pourquoi ça vous avait peur, le nom de l'auteur?
Ben, disons, c'est un nom et un prénom à consonance plutôt maghrébine. Donc c'est une appréhension, pas naturelle, mais c'est une appréhension. Et j'avais peur de me retrouver dans une histoire, dans un pays du Sahel, alors qu'en fait, non, c'est une vie d'une femme enfermée et qui explique un peu ce qui se passe.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'importance pour vous de la lecture de manière générale en prison? Est-ce que vous lisez beaucoup? Est-ce que vous avez un accès important aux livres? Est-ce que c'est quelque chose qui est important, qui est devenu important dans votre vie?
Disons, c'est un passe-temps et puis une évasion d'une demi-heure, trois quarts d'heure, pour dire de ne pas penser à autre chose que d'être enfermé.
Pour ma part, moi, grâce à la lecture, enfin grâce à madame mon voisin, quoi, qui m'a poussé à lire, je me suis découvert quelques qualités, quoi, d'écrivain. Je dirais, enfin, d'écrivain, c'est un bien grand mot, quoi, mais j'ai pu créer pas mal de petits poèmes. Et donc, grâce à ça, a amélioré aussi mon orthographe, mon vocabulaire. J'écris beaucoup plus, quoi, par rapport à avant. Je pouvais faire 3-4 phrases, comme c'est tout, mais maintenant, je peux faire, je dis pas un roman, mais pas loin, quoi. Et tout ça grâce à madame Beauvoisin, quoi.
Alors, je crois que vous avez un projet collectif, hein, donc vous travaillez à l'écriture d'une nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, on est sur un projet de nouvelle depuis un certain temps, plusieurs mois, qui raconte l'histoire d'une jeune fille du prénom de Leïla. Donc le titre de cet ouvrage portera le nom « Nuances d'une vie de papillon ». Et donc c'est l'histoire d'une jeune délinquante qui, suite à une chute dans sa vie, va se retrouver emprisonnée. Et là, on raconte son histoire, quoi. De la prison à l'incarcération, du moment qu'elle est... aux écrous.
C'est une manière aussi de parler de votre situation, peut-être aussi vos revendications ou...
Du ressenti qu'on a à l'intérieur, quoi. De nous, on fait passer le message du ressenti qu'on a ici, à l'intérieur de ces murs, quoi. Ce que l'on peut ressentir, ce que l'on peut voir ou entendre. Puis l'espoir aussi qu'on a aussi, quoi. Surtout.
C'est notre histoire à travers les yeux d'une petite jeune fille, en fait. On raconte tous une partie de notre histoire là-dedans, donc, mais à travers les yeux d'une jeune fille qui s'appelle Leïla. Voilà. Donc nos joies, nos peines, nos désespoirs, nos craintes, nos attentes, le dépassement de soi, parce que c'est une épreuve, la prison, en fait, c'est une épreuve. Et là, on veut démontrer que ben, même en prison, il y a toujours des raisons d'espérer. C'est pas... Voilà. C'est pas... Il faut prendre les bonnes décisions, il faut toujours aller de l'avant, il faut toujours, enfin, entre guillemets, essayer de penser positivement. Et je pense que si on croit en nous, en ce qu'on est et en ce qu'on est capable de faire, on peut aller très loin, quoi. D'où l'écriture de cette nouvelle.
Alors pourquoi avoir choisi un personnage féminin pour représenter tout cela?
En fait, ça nous force à travailler et ça nous oblige à penser différemment, à voir différemment, à se mettre à la place d'une autre personne qui n'est pas nous. Et c'est difficile, ça nous permet, nous, d'avancer un peu plus, de nous concentrer un peu plus. Et on en ressent tout le bienfait hors atelier, en fait. Que, je veux dire, même maintenant, dans les couloirs ou en promenade, ceci, cela, l'écriture, l'atelier, lire pour en sortir, Bah, c'est bénéfique pour nous, en fait, je pense.
Grâce à eux, on peut rencontrer des auteurs. Grâce à eux, on peut s'évader. Grâce à eux, on peut s'imaginer. Enfin, et on peut aller beaucoup plus loin que ce que nous, on espérait. Quoi.
On écoutait le groupe de personnes détenues qui participaient à cette rencontre littéraire organisée par l'association Lire pour en sortir à la maison d'arrêt d'Arras, c'était le 10 mars dernier. On écoute maintenant Sophie Barniaud, directrice générale de l'asso parisienne Lire pour en sortir.
L'association Lire pour en sortir a pour objectif d'accompagner les personnes détenues dans leur réinsertion par la lecture, plaçant au carrefour de la lecture, de l'écriture, de la culture et de l'éducation les ressorts essentiels de la construction d'une personne pour se réinsérer dans la vie en dehors de la prison.
Comment c'est né cette idée finalement ?
Cette idée est née dans la tête d'Alexandre Duval-Stalla qui a créé l'association, qui est à la fois avocat, écrivain et bénévole au Secours catholique. Il avait entendu parler d'une initiative qui a été créée en fait au Brésil et qui consistait à donner 4 jours de peine pour un livre lu. Cette initiative a été mise en place en 2014. Un amendement a été proposé dans la loi pour lutter contre la récidive. Et l'idée, c'était de permettre aux activités culturelles, et notamment la lecture, d'être prises en compte par le juge d'application des peines, enfin de pouvoir être prises en compte par le juge d'application des peines dans le parcours de mise de peine et dans éventuellement la possibilité de donner des jours de remise de peine aux personnes détenues, au même titre que la formation ou le travail en détention.
Donc concrètement, ceux qui participent à ces ateliers de lecture finalement, peuvent compter sur des remises de peine à la fin.
Voilà, en fait c'est une initiative individuelle qui tranche un peu, et c'est la particularité du programme de lecture de Lire pour en sortir, qui tranche avec les activités plutôt collectives que les personnes détenues ont d'habitude. C'est vraiment une relation entre la personne détenue et sa capacité à lire en échange avec un bénévole. Et chaque livre lu, avec la fiche de lecture qui correspond, permet effectivement de donner des informations qui vont dans le dossier pour le juge d'application des peines. Et ce juge pourra prendre une décision au regard de ses activités culturelles comme d'autres activités, d'octroyer des remises de peine, comme on considère qu'une personne détenue par son comportement, dans l'ensemble, peut effectivement mériter des jours de remise de peine.
En même temps, on vient de sortir de la rencontre, on voit bien que les participants, les personnes détenues, peut-être elles visent une remise de peine, mais on voit bien que c'est très important ce rapport à l'écriture, à la lecture. Ils sont complètement rentrés dans ce livre, dans la rencontre.
Tout à fait. En fait, l'histoire de la relation entre l'activité culturelle, la lecture et la remise de peine, c'est vraiment l'initiative qui a permis la création de l'association, avec cette idée qu'on pouvait prendre en compte la construction de la personne en plus de la formation, de l'éducation, etc., comme élément important pour sa sortie et pour sa réinsertion dans la société. Mais ça, c'est une carotte, beaucoup nous ont dit, une carotte utile, en fait, parce que peut-être on va se dire, tiens, on s'inscrit au programme Lire pour en sortir, pour avoir des remises de peine, mais d'abord, si on veut juste le faire pour ça, quand on se retrouve devant une fiche de lecture, on est peut-être un petit peu arrêté. Et évidemment, passer le premier livre, ceux qui en témoignent, les personnes qui participent au programme, nous disent que, voilà, une fois qu'ils sont rentrés dans la lecture, dans l'écriture des fiches de lecture, ils continuent pour le plaisir et pour tout ce que ça leur apporte en termes d'évasion, en termes de confiance en soi, en termes de connaissance de tas de choses à l'extérieur qui leur permet d'ouvrir un peu leur regard sur le monde.
En même temps, des rencontres avec des artistes, alors pas forcément des écrivains, mais ça peut être aussi des musiciens, des gens du théâtre ou de la poésie. Ça existe un petit peu partout en France, dans toutes les prisons finalement. Au niveau de la littérature, c'est moins courant hein.
C'est pas moins courant. En fait, en France, il existe un tas d'initiatives qui sont souvent très locales autour des prisons, qui concernent qui la lecture, qui l'écriture, le théâtre, la musique, même l'art au sens, effectivement, l'art dans les musées. On peut pas dire qu'il y a moins de choses sur la lecture que sur le théâtre ou l'écriture. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a des choses parce qu'il y a essentiellement des associations qui font des choses au niveau local, qui mettent en place des programmes, qui font venir des artistes, des acteurs, des comédiens, comédiens, des auteurs, des musiciens. Mais tout ça repose sur vraiment une initiative citoyenne, une initiative militante de gens qui, à travers des associations, mettent ça en place. Mais là encore, c'est une question de lien, c'est-à-dire que ce soit un atelier de théâtre, de la musique, ou c'est à la fois la permettre aux personnes détenues de se construire un peu eux-mêmes différemment de ce qu'ils ont pu vivre avant, mais aussi de faire un lien avec la société, parce que faire venir un auteur en prison, c'est faire venir l'extérieur, être une association et venir mettre en place un atelier de poterie, un atelier d'écriture ou de théâtre, c'est encore une fois faire venir l'extérieur et montrer que voilà, bah, au-delà des idées reçues, qu'en prison il y a des gens, et ça c'est les personnes détenues hein, qui le disent, on imagine qu'on est des gros balourds et qu'on sait rien faire, bah, on est aussi intéressé, on se pose des questions et on découvre aussi des choses qui nous font avancer dans la vie et qui peut-être nous permettront de prendre un nouveau départ.
Ce qui fait qu'il se passe peut-être relativement peu de choses dans les prisons, finalement, c'est aussi quand même une forme de rigidité de l'administration pénitentiaire. C'est difficile de rentrer, c'est difficile aussi de faire sortir des choses.
Alors en fait, c'est pas tant une question de rigidité de l'administration pénitentiaire, c'est une question de culture de la prison. C'est-à-dire qu'il y a près de deux siècles, quand la prison telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui a été faite pour punir après la Révolution française, dans le sens qu'on commençait à enfermer des gens pour les punir d'une infraction ou d'un crime, cette prison-là n'a pas été pensée comme un endroit où on pouvait aussi éduquer, former, ouvrir aux arts, ouvrir au monde les gens. C'était au départ, c'était fait, l'enfermement était la punition. Aujourd'hui, et depuis quelques dizaines d'années quand même, on réfléchit beaucoup, et l'administration pénitentiaire et tous les partenaires réfléchissent à tout ce qui améliore à la fois le vécu des personnes détenues en vue de leur réinsertion dans la société, mais aussi améliore le travail des personnels pénitentiaires, des surveillants, des gens des services de SPIP, d'insertion et de probation. Donc il y a vraiment une prise de conscience que c'est du plus, que c'est du mieux. Tout le monde témoigne que des personnes qui ont des activités, des ateliers d'écriture, de formation, etc., ou de lecture, sont mieux dans leur quotidien, sont mieux dans leur relation avec les autres, avec les surveillants. Le problème, c'est qu'au départ, encore une fois, la prison, dans sa structure géographique, n'est pas faite pour ça, et qu'il manque de salles, souvent, il manque de personnel, parce que quand un bénévole de Lire pour en sortir vient rencontrer des personnes détenues inscrites au programme, eh bien, il faut un surveillant pour aller chercher une personne détenue dans sa cellule et l'amener au parole avocat ou l'amener à la bibliothèque selon les cas. Et tout ça, voilà, c'est des choses en plus. Il faut se dire que oui, il n'y a pas beaucoup d'activités de manière générale, qu'elles soient artistiques, culturelles ou éducatives en prison, mais ce n'est pas par manque de volonté, c'est surtout par manque de capacité, de structure. C'est pour ça qu'actuellement il y a toute une réflexion sur comment on construit des nouvelles prisons et que beaucoup d'associations comme Lire pour en sortir essaient de s'impliquer dans ces réflexions pour dire que voilà, il faut aussi des espaces dans la prison autres que des douches, des cellules, des salles de classe. Il faut aussi des salles comme des bibliothèques, ça c'est déjà prévu par la loi, mais aussi des salles où on peut se rencontrer avec un auteur, avec des comédiens de théâtre, etc. Et voilà, c'est pas forcément juste une question de volonté, c'est aussi parfois une question de capacité.
No more prison. Sophie Barniaud, directrice générale de l'asso Lire pour en sortir. D'ailleurs, vous pourrez rencontrer cette association puisqu'elle aura un stand lors du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale le 1er mai prochain à Arras. Ça sera sur le village des associations, sur la petite place. On revient à notre reportage réalisé dans l'enceinte de la maison d'arrêt d'Arras le vendredi 10 mars dernier. On écoute maintenant plusieurs personnes qui font partie de l'équipe d'enseignement dans cette prison.
Donc Stéphanie Bonvoisin, enseignante à l'unité d'enseignement de la maison d'arrêt d'Arras.
Donc c'est l'éducation nationale qui intervient en prison, c'est ça ?
Oui, ouais. Chaque établissement pénitentiaire accueille au moins un enseignant au sein de l'établissement. Ouais. L'éducation nationale a passé une convention avec l'administration pénitentiaire.
Donc concrètement, vous encadrez un groupe de détenus qui sont quoi, volontaires ici ?
Alors ce sont des personnes effectivement qui sont volontaires. Cela dit, nous on s'attache, mon collègue et moi, à repérer les personnes jeunes, non diplômées, parce que c'est avant tout la priorité bien sûr. Mais il est évident que si nous avons de la place pour des personnes plus âgées qui souhaitent dépasser le cas de l'illettrisme, hein, parce qu'on a beaucoup de personnes illettrées, on les prendra. Ça c'est évident. évident, ça fait partie de nos priorités.
Donc vous apprenez donc la maîtrise de la langue française, mais aussi donc, vous animez des séances ateliers, c'est-à-dire écriture, lecture, comme c'est le cas aujourd'hui.
Oui, il s'agit pour nous de ne pas reproduire ce qu'ils ont vécu à l'extérieur à l'école. Donc on ne peut pas utiliser la même pédagogie qu'à l'extérieur, on ne va pas non plus les infantiliser, donc on ne travaille pas sur des albums que l'on donne aux enfants qui sont en âge d'apprendre à lire. Aussi, on travaille toujours par projet et par atelier. On se met au défi, même si on n'est pas lecteur, même si on ne sait pas écrire, de passer par exemple par ce que j'appelle le porte-plume, c'est moi qui vais écrire à leur place, et puis petit à petit, ils vont entrer dans la lecture et l'écriture. Ils vont prendre confiance. Et donc, on s'arrange pour que les groupes soient hétérogènes, puisqu'ils peuvent ainsi s'entraider. Et c'est ce qui permet aussi de les rendre davantage citoyens, de les rendre davantage conscients de la nécessité de s'entraider dans le milieu carcéral, mais aussi à l'extérieur.
L'enjeu, c'est construire cette citoyenneté. C'est une forme d'évasion. Ça a été évoqué plusieurs fois, mais c'est aussi, il y a un côté éducatif et puis préparer une forme de réinsertion peut-être pour certains.
Mais c'est complètement notre objectif. C'est effectivement l'insertion ou la réinsertion. Complètement. Donc, évidemment, on ne peut pas s'insérer si on ne devient pas citoyen. On ne peut pas s'insérer si on ne maîtrise pas la langue orale et la langue écrite. Donc, finalement, tout ce que l'on doit viser, nous, en tant qu'enseignants, va participer à l'insertion ou à la réinsertion de la personne détenue. Oui, ouais, c'est notre objectif principal.
Ça passe par aussi une phase de reconstruction de soi-même, peut-être, pour certains ?
Oui, alors nous ne sommes pas psychologues. On n'est pas habilités à faire de la psychothérapie. Par contre, le fait de travailler toujours en groupe, de travailler l'entraide entre les personnes détenues dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, va permettre quelque part de travailler sur soi, oui. Bien sûr.
C'est pas évident de travailler à l'intérieur d'une prison parce qu'il y a un cadre extrêmement strict. Il y a aussi une réglementation administrative pas souple du tout. Donc comment ça se passe finalement ici à la maison d'arrêt d'Arras ?
Alors en fait, ça se passe plutôt bien dans la mesure où les surveillants sont conscients que l'école peut apporter quelque chose à nos élèves et que du coup, ça retentit aussi sur l'ambiance dans les cellules et dans la prison. Donc l'école est conçue comme un moyen quelque part de canaliser les personnes et d'empêcher que le manque d'occupation provoque des soucis. Donc on arrive à travailler assez facilement. Nos conditions de travail sont facilitées par les surveillants, sauf que effectivement, il faut que les surveillants comprennent qu'on peut apporter quelque chose à l'ambiance de la maison d'arrêt.
Alors là, avec les personnes détenues, vous travaillez à l'écriture d'une nouvelle. Comment ça se passe ? Ça va sortir de la prison aussi, alors ?
Alors, on espère, effectivement. Nous, on va s'auto-éditer, mais nous espérons être édités parce que c'est un vrai projet collectif. Cette nouvelle, on l'écrit ensemble, à plusieurs mains. Il y a toute une forme de démocratie participative. Chacun émet un premier écrit sur un élément de la nouvelle. Chacun donne une version et puis ensuite on décide de ce que l'on retient, de ce que l'on ne retient pas. Et puis petit à petit, notre nouvelle se construit. Donc c'est vraiment ce que l'on appelle de la pédagogie coopérative. Nous écrivons tous ensemble. Nous faisons aboutir un projet au bout de plusieurs mois. Donc on apprend aussi la persévérance, on apprend aussi l'entêtement, on apprend aussi le courage, la rigueur. Et donc à nouveau, on participe à la construction du citoyen. Et donc à la réinsertion.
Ça parle des conditions de détention, ce livre ?
Alors ça parle des conditions de détention, mais pas dans le sens où on dénonce quoi que ce soit. Nous, ce que l'on veut, c'est être constructif. On veut absolument essayer de participer quelque part à une réflexion sur la prison, sur les conditions qui pourraient faire que un détenu peut se réinsérer. Donc on n'est pas du tout dans la dénonciation, on est vraiment dans la construction ensemble des conditions idéales pour pouvoir se réinsérer. On imagine une prison, on imagine la prison idéale. Voilà.
Michel Krupka, je suis donc responsable local de l'enseignement à la maison d'arrêt d'Arras.
Quelle mission finalement à l'éducation nationale ici dans cette maison d'arrêt ?
La mission est quasiment impossible, c'est pour ça qu'elle est intéressante. La mission, c'est d'abord de prendre en charge les personnes détenues du plus bas niveau, les plus jeunes, pour faire en sorte que, une fois sorties, elles aient au moins le minimum, à savoir lire, écrire, compter. L'examen prioritaire que l'on fait passer en prison, c'est le CFG, Certificat de Formation Générale, qui est donc le premier diplôme éducation nationale. Il faut savoir qu'à peu près 70% de la population pénale ici est sans diplôme. Un. Deux, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de créer, pour moi en tout cas, un puzzle d'enseignement avec des personnes bénévoles. À savoir, en informatique, on a deux personnes qui interviennent lundi et le mercredi après-midi. En langue des signes, on a une personne qui intervient lundi après-midi également. En français, il y a une personne qui prend en charge des détenus qui sont handicapés, donc qui viennent d'IME, d'IM Pro, et elle en prend en charge trois, ce qui est extrêmement intéressant pour la structure pénitentiaire. On a également, évidemment, un poste supplémentaire au nom de Stéphanie qui a ce poste et qui, elle, prend en charge des ateliers de raisonnement logique, mais également ateliers d'écriture. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a également une prof de mathématiques bénévole qui intervient 2 heures par semaine à un niveau 5, donc préparation au brevet des collèges. Donc vous voyez bien qu'on a un paysage qui est quasiment complet à partir, parce qu'on a au départ un seul équivalent temps plein. Voilà, et donc les personnes détenues ont donc cette palette à leur disposition.
Peu de moyens à la base, mais finalement quand même pas mal de choses qui sont faites pour les détenus. Ça représente combien de temps pour eux ? C'est quand même relativement peu dans la semaine.
Alors, dans la semaine, en principe, moi je les prends environ 8 heures par semaine, plus toutes ces personnes bénévoles. Toutes les personnes que je viens de citer tout à l'heure, c'est l'équivalent d'un temps plein, c'est-à-dire 20-21 heures qui sont gracieusement octroyées par ces personnes bénévoles. Qu'elles viennent du GREF, le GREF c'est le groupement des éducateurs retraités sans frontières, qu'elles viennent du CLIP, le CLIP c'est le club informatique pénitentiaire, ou des personnes bénévoles parce qu'elles ont souhaité intervenir auprès des personnes détenues scolarisées.
Ici, la maison d'arrêt d'Arras, c'est une vieille prison. Bon, on sait que c'est difficile, hein, les conditions de manière générale de vie en milieu pénitentiaire. Comment vous voyez ça, vous, un peu ?
Ah, mais moi, je vois ça un peu comme... En fait, on a la chance, aussi paradoxal que ça puisse paraître, d'avoir une petite prison, un peu comme les classes uniques auparavant. C'est un petit peu l'œil que moi je porte sur une petite prison de 200 détenus ici. Je peux justement, c'est quasiment familial. On connaît tous les surveillants nous connaissent, ce qui fait qu'en fait, on arrive très vite à atteindre une personne détenue qui ne sait pas lire. On arrive très vite à atteindre les gens qui sont le plus dans le besoin au niveau éducationnel.
Des rencontres comme celle-ci, qu'est-ce que vous en pensez, vous, alors ?
Ah, mais moi, je pense que c'est extrêmement intéressant. Il faut, je crois, donner des moments forts à l'unité locale de l'enseignement. Un écrivain qui rentre en prison pour une après-midi, c'est un moment fort. Nous accueillons dans 15 jours un prof d'université en géographie qui va venir faire une intervention sur la mondialisation sur une demi-journée. Un autre moment fort. Le passage des examens au mois de juin, c'est un autre moment fort. Le conseil de classe qu'on a tous les semestres, c'est un autre moment fort. Vous voyez bien que tout ça a pour but de restructurer la personne détenue dans, ou plutôt malgré, le milieu carcéral.
Michel Krupka, et avant cela on écoutait Stéphanie Bonvoisin. Ils font partie de l'équipe d'enseignement qui intervient auprès de détenus à la maison d'arrêt d'Arras. On les a rencontrés le 10 mars dernier à l'occasion de cette rencontre organisée par l'asso Lire pour en sortir. Rencontre entre un groupe de détenus et l'écrivaine Kaoutar Archi. Justement, on va terminer avec cette jeune auteure strasbourgeoise, Kaoutar Archi. 29 ans et déjà 3 romans et un essai. Elle est aussi sociologue. Elle a publié à l'origine Notre Père Obscur chez Actes Sud. On l'écoute juste après la rencontre avec les personnes détenues.
J'ai trouvé que c'était un échange fort. L'un d'entre eux m'a demandé à un moment donné si ça n'avait pas été trop difficile de passer les portes de la prison et de rencontrer des détenus. Et j'ai essayé de lui dire que ma démarche n'était pas celle-là et que je n'étais pas venue rencontrer des détenus, mais rencontrer des lecteurs, en fait, tout simplement, même si les choses sont loin d'être simples. Mais c'est un moment émouvant. Ouais.
En même temps, on est là dans cette pièce un petit peu à part dans la prison. Hein. On est rentré dans la prison, on a vu les couloirs, les grilles, les portes qui claquent. Et puis là, finalement, on est dans un endroit qui ressemble à une salle de classe ou une salle de associative. Quoi.
En vérité, on oublie très vite qu'on est en prison. C'est mon sentiment qui est très, très immédiat. Et on oublie vraiment qu'on a affaire à des hommes qui, par ailleurs, ce soir ne rentreront pas chez eux, mais réintégreront leur cellule, en fait. En tout cas, durant l'échange qu'on a eu, j'ai eu peine à savoir ou à me souvenir qu'un tel était dans telle situation ou qu'un tel autre était dans telle situation vis-à-vis du système carcéral. Ça a été... mis à part ou oublié ou sublimé ou suspendu, et tant mieux, c'était vraiment l'objectif de la rencontre, de faire en sorte que ce soit un temps d'évasion.
Je ne sais pas comment vous avez ressenti les choses, mais moi j'ai l'impression que le groupe était vraiment, vraiment passionné par la lecture, par l'écriture aussi, puisqu'il s'implique dans un projet d'écriture. Mmh. C'est ça qui m'a surpris finalement, l'implication culturelle qu'ils peuvent avoir.
Oui, je crois que ce sont effectivement des hommes qui sont dans des situations d'urgence et d'adversité très, très, très fortes, même si par ailleurs, de mon côté, j'ignore totalement le pourquoi de leur présence ici. Mais ça crée évidemment chez eux des besoins, des nécessités, ça éveille des manques. Qu'ils ne peuvent pas combler comme ils pourraient vouloir le combler, en étant proches de leur famille ou en étant bénéficiaires d'un salaire tous les mois, etc. Et je pense qu'à ce titre-là, évidemment que la question de la culture, de la littérature peut-être en particulier, ou des arts de manière plus générale, comble ça, comble cette fracture intime et profonde. Qui se sent d'ailleurs, qui se sent très clairement.
Alors, votre dernier livre ne parle pas de prison, mais il y a quand même la question de l'enfermement, même si vous disiez dans la rencontre que ce n'est pas quelque chose à laquelle vous aviez pensé dans ces termes. Donc la question de l'enfermement qui faisait écho à leur expérience.
Oui, effectivement, ça a été quelque chose sur lequel je me suis interrogée. Je me suis demandé jusqu'où... je pouvais faire un lien entre l'histoire racontée et leur propre vécu. Et c'est un lien que je n'ai pas spécialement voulu faire pour ne pas les renvoyer à quelque chose de leur quotidien. Et c'est eux qui ont fait ce lien-là, en fait. C'est eux qui ont rapproché la trajectoire de cette jeune femme dans cette maison des femmes à leur propre trajectoire et à leur propre vécu dans la prison. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet aussi de revenir sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent, même si ça reste par points, on avance à tâtons de toute façon dans ces moments-là. Mais ça a été intéressant parce que oui, c'était des échos riches dont moi j'ai pu profiter pour nourrir la rencontre et dont ils se sont servis eux aussi pour dire quelque chose de ce qu'ils vivent et qu'ils ne semblent pas dire par ailleurs aux enseignants ou au reste du personnel.
Un mot sur justement comment vous voyez le travail à la fois de l'association Lire pour s'en sortir et puis aussi ici l'équipe d'enseignants que vous avez croisé, parce que vous avez, j'allais dire, un peu en bout de chaîne, c'est-à-dire il y a eu un travail en amont, tout ça quoi.
Oui, évidemment, le travail en amont qui permet l'entrée d'un auteur en prison est particulièrement complexe. Ça met en jeu un certain nombre d'administrations, de structures, d'autorisations, etc. Et je pense qu'effectivement, le travail qui est réalisé par l'association Lire pour en sortir, il est d'une nécessité toute humaine, en fait. C'est un travail qui qui méritent d'être accompagnés, que je vais certainement essayer d'accompagner encore un peu plus, d'un point de vue peut-être un peu plus analytique, ou en tout cas essayer de les accompagner aussi sur le pan de l'évaluation, pas en termes de résultats évidemment, mais plus en termes de possibilités de compréhension de ce qu'il se passe quand on organise des rencontres comme celle-ci. Et j'espère que très rapidement, le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi le ministère de la Culture pourront faire partie de cette boucle-là. Je crois qu'on a besoin de toutes les bonnes volontés, et on a aussi surtout besoin d'être soutenu par l'État.
Donc là, vous ne serez plus en tant qu'écrivain, mais en tant que sociologue, c'est ça, dans cette aventure aussi?
Disons qu'évidemment, il y a toute la question aussi de la création et de la lecture, plus précisément en situation d'urgence ou en situation d'adversité. Et je pense que c'est un enjeu social qui mérite aussi d'être alimenté, d'être nourri, pour pouvoir justement appuyer les démarches associatives, les démarches des bénévoles, mais aussi faire en sorte qu'il y ait des engagements politiques forts, et qu'en termes de possibilités d'action, on ne soit plus limité, comme on peut l'être parfois, par la problématique économique, par exemple, tout simplement. Et essayer de transformer aussi la culture carcérale qui part de l'idée que l'enfermement, c'est la punition. Cette relation-là, cette liaison-là, elle est évidemment à retravailler, à redéfinir. Beaucoup de gens l'ont déjà fait, mais je crois qu'une association comme LIRE pour en sortir ne peut que apporter, elle aussi, sa pierre à l'édifice.
Kaoutar Archi, romancière et sociologue, auteure de « À l'origine, notre père obscur » chez Actes Sud. Plus récemment, elle est aussi l'auteur de l'essai « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne » chez Fayard. Elle participait à cette rencontre littéraire avec des personnes détenues à la maison d'arrêt d'Arras, vendredi 10 mars dernier, rencontre organisée par l'asso « Lire pour en sortir » avec le concours de l'unité locale d'enseignement. On remercie au passage la direction interrégionale des services pénitentiaires des Hauts-de-France qui nous a gentiment donné l'autorisation de mettre les pieds en prison. C'était la première fois pour moi. Et surtout, on a pu rentrer avec notre matériel de reportage radio et nos questions.
Like the sound of the man.